grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Bonjour Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour.
On est heureux de vous recevoir avec Alexis Brezet du Figaro.
Bonjour.
Christophe Jacubicine de LCI.
Bonjour.
Et évidemment, comme tout le monde, on a lu le livre de François Hollande, page 121, quand il dit « Elle est bonne, Najat, très forte en langue de bois ». Et puis, il donne un autre versant de personnalité, un peu plus loin. « C'est quelqu'un qui en veut, Najat. Elle en veut plus que les autres. Elle me rappelle Ségolène dans les années 80. » Évidemment, c'est ce second aspect de la personnalité que nous préférons, parce que Ségolène Royal n'avait pas, et n'a toujours pas d'ailleurs, sa langue dans sa poche. Donc, pour vous mettre à l'aise, première question, entre François Hollande et Manuel Valls, qui choisissez-vous comme candidat à la primaire de la gauche ?
Je crois que l'un ne se présentera pas contre l'autre. Ce n'est pas comme ça que les choses vont s'organiser, parce que ça n'est pas raisonnable et ça n'est pas envisageable. Je ne crois d'ailleurs même pas que ce soit envisagé par l'un et l'autre. Pour une raison simple, c'est que ce qui se joue dans cette primaire tout de même, à un moment où nous voyons bien, à l'extrême droite, on sait qui sera le candidat. À la droite, on saura ce soir qui sera le candidat d'une famille réunie. À l'extrême gauche, commence à se dessiner aussi un seul et unique candidat. Donc, il reste maintenant à notre bloc, à nous, à gauche, à désigner un candidat qui soit celui du rassemblement. Et pour désigner ce candidat du rassemblement, au sein de la primaire, il ne peut y avoir que des candidatures présentant des projets différents. Or, François Hollande et Manuel Valls partagent le même bilan, partagent les mêmes valeurs, construisent ensemble le projet pour la suite. Ils sont tous les deux sociaux-démocrates. Donc, ils ne peuvent pas se présenter tous les deux.
Et entre les deux, vous choisissez lequel ?
Moi, je crois sincèrement que les bavardages des entourages des uns et des autres ont beaucoup contribué à alimenter ce climat crépusculaire que l'on connaît en ce moment et qu'il faut que cela cesse. Il faut que l'un et l'autre, François Hollande, Manuel Valls, se parlent. Le font d'ailleurs
déjà. Vous choisissez
déjà.
Lequel entre Hollande et Valls ?
Non, mais j'ai déjà dit 100 fois que je considérais que le président de la République, François Hollande, était légitime à se représenter par définition. Mais nous sommes dans une situation qui appelle une réponse. Et donc, il faut que l'un et l'autre se parlent et trouvent ensemble la solution qui conviennent à tous les deux, car je leur fais confiance à tous les deux. Ils ont un sens des responsabilités très élevé et un sens de l'État aussi très élevé.
Et Najat Vallaud-Belkacem, il ne s'agit pas de bavardage des entourages. Il s'agit ce matin d'une interview de Manuel Valls dans le journal du dimanche, dans lequel il dresse un portrait peu flatteur de François Hollande. Est-ce que vous partagez l'analyse qu'il fait du président ?
Moi, je considère que le président François Hollande a eu, durant tout un quinquennat, durant ces 4 dernières années, à gouverner un pays qui avait été fragilisé par le précédent gouvernement de droite. Fragilisé sur le plan à la fois des investissements économiques, des services publics, dans l'éducation, dans la justice, dans la sécurité, qu'il a fallu redresser à chaque fois. Fragilisé aussi sur le plan des valeurs. Et on a pu constater que François Hollande a été à la hauteur à chaque fois qu'il s'est agi de porter la cohésion de ce pays, la cohésion nationale, de faire face y compris à des tragédies terribles comme les attentats que nous avons connus. Donc oui, je considère que François Hollande a incarné la présidence de la République, qu'il a été à la hauteur, qu'il a porté un projet qui a fait du bien à la France. N'en déplaise aux commentaires médiatiques. Moi, vous savez, je souris très souvent.
Des Français aussi,
Lorsque à longueur de journée, on prétend que le bilan de ce quinquennat serait une catastrophe. Non mais quelle plaisanterie. Une catastrophe où ? Une catastrophe parce que nous avons réinvesti dans l'éducation et qu'aujourd'hui,
Rassurez-vous, mais la question que vous pose Christophe Jacubicine, alors que ne le dites-vous à Manuel Valls ? La question que vous pose Christophe Jacubicine est très simple. Manuel Valls dit ce matin dans l'interview, le livre a tout changé, et il avait dit d'ailleurs précédemment, c'est une honte. Donc François Hollande n'est pas à la hauteur de la situation, c'est ça qu'il nous envoie comme message. Est-ce que c'est normal, possible, qu'un Premier ministre envoie ce message-là s'agissant du Président de la République ?
Moi, je souhaite que le Premier ministre et le Président de la République, pour lesquels j'ai la plus grande désestime, tous les deux, se parlent. Voilà.
Et ça
que
vous choque que Valls
dise ça et que l'on cesse ces discussions interposées par voie
mais
de
c'est
presse.
C'est pas interposé là.
Est-ce que d'un point de vue institutionnel, est-ce que c'est normal que le Premier ministre s'attaque comme ça à la personne du président de la République? Est-ce que c'est normal que le président de l'Assemblée nationale dise bon, ils ont qu'à être tous les deux candidats? Est-ce qu'il n'y a pas un problème institutionnel? Ça vous choque pas tout ça?
Oui, en tant que militante socialiste, évidemment, je préférerais que chacun ait en ce moment précis un sens des responsabilités qui nous évite, en effet, les petites phrases et le buzz médiatique que l'on connaît depuis des semaines.
Ce matin. Vous avez l'air très, très remonté.
Mais soyons clairs, ce buzz médiatique...
Non, ce n'est pas un buzz médiatique, c'est une interview de Valls dans le journal du dimanche.
Il est aussi lié à un régime de crise permanente qui est alimenté par un certain nombre de médias qui ne retiennent jamais...
Mais arrêtez de parler des médias. En l'occurrence, il s'agit d'une interview du Premier ministre, qui parle du président.
Christophe Jacubizine, pendant des semaines et des semaines, nous avons sillonné le pays à faire des meetings pour défendre le bilan de ce gouvernement,
là,
y compris d'ailleurs aux côtés de Manuel Valls. Est-ce que vous en avez rendu compte de la même façon que vous rendez compte de chacune des phrases qui font le buzz médiatique?
La droite parle des médias, la gauche parle des médias.
Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de moi, ministre de l'Éducation nationale, de la façon dont je vis la relation entre les deux hommes que vous venez d'évoquer. Elle est bien meilleur que ce qu'on veut bien en
vous
dire.
Vous imaginez mercredi
ils se parlent
conseil
bien
des ministres.
Plus souvent que ce qu'on veut bien en dire. Et donc, je les incite à aller jusqu'au bout de leur discussion et à
Est-ce
trouver la solution
qui leur convient
à tous les
deux. Est-ce que vous en avez parlé avec Manuel Valls, par exemple? Est-ce que vous lui avez dit, Manuel, arrête? Je vous pose la question.
Ah pardon, je vous attendais
que
vous terminiez
vous
votre...
arrête, ne dis plus des choses comme ça.
Mais, enfin, d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la gauche doit se rassembler.
Non,
il dit qu'il
faut
pas
avoir le sens
Hollande.
De l'État.
Il dit que la gauche doit se
rassembler.
Il parle de déception, de doute.
Je n'exclus aucune possibilité quand on lui demande s'il peut se présenter
mais
face
oui, mais,
à François Hollande.
Ça, à la limite, mais alors voilà. Alors, entrons dans le détail. Donc, il dit... Si le président de la République devait ne pas se présenter, je suis prêt et j'irai.
Non, il n'exclut pas d'être candidat face à Hollande.
La question
est, est-ce que vous excluez d'être candidat face à Hollande? Il dit, je prendrai ma décision en conscience. Donc il ne dit pas, non, je ne serai pas candidat contre François Hollande.
Je trouve que, dans l'absolu, c'est une bonne chose d'avoir un Premier ministre qui porte suffisamment haut les valeurs de la social-démocratie en question pour se tenir prêt... Le cas échéant, si le président de la République n'y allait pas, moi je reste sur cette idée-là que le Premier ministre et le président de la République trouveront un terrain d'entente et que c'est si le président de la République n'y va pas qu'alors
Mais
le Premier ministre serait en
situation. Vous imaginez le prochain conseil, je sais pas, vous êtes au Conseil des ministres, donc voilà, bonjour Monsieur le Président. Et j'ai expliqué lors d'une interview dans un journal lu par beaucoup de Français que tu n'étais pas à la hauteur, Monsieur le Président, mais néanmoins j'ai beaucoup de respect pour
vous
toi.
Vous interprétez ces propos par ailleurs. Ce n'est pas ce que j'ai lu moi dans cette interview.
Ah bon? Qu'est-ce que vous avez lu alors?
Vous les tirez, vous les... Si, vous les interprétez vraiment à votre sauce. Moi, ce que j'ai lu dans cette interview, c'est un appel à la responsabilité de la gauche tout entière.
Non, un appel au désistement de François Hollande, c'est ça l'interview?
Non, pas du tout. Bah, écoutez, chacun son appréciation de cette interview.
Et quand Claude Bartolone, président de l'Assemblée, dit ce qu'il faudrait, puisqu'ils ont tous les deux un projet, il faudrait qu'ils se présentent tous les deux à la primaire. Ça vous paraît une bonne idée, ça?
Écoutez, c'est l'opinion de Claude Bartolone.
Non, mais vous
je ne la partage pas, je vous ai dit. Je ne vois là rien de raisonnable, rien d'utile, ni pour la gauche, ni pour le pays.
Mais pourquoi il dit ça, Bartolone, alors?
Soyons clairs, plus on se divisera, et en plus sur la base des mêmes projets, puisque je redis que le projet social-démocrate, qui pour moi est le seul qui soit en mesure de faire gagner la gauche, j'ouvre une parenthèse là-dessus. Pourquoi c'est le seul qui soit en mesure de faire gagner la gauche à l'élection présidentielle? Parce qu'aujourd'hui, si vous commencez par dire aux Français « Attendez, ce qui a été fait depuis 5 ans par la gauche au pouvoir, c'était des erreurs économiques, etc. », vous disqualifiez la gauche pour la suite de l'histoire, puisque les Français vont vous répondre « Si vous n'avez commis que des erreurs, pourquoi voulez-vous qu'on continue avec vous ?» On va essayer autre chose.
Il faut peut-être reconnaître certaines erreurs pour dire « On fera différemment ».
Ah oui, ça, on peut toujours amender, nuancer. Évidemment qu'on sera tous amenés à le faire. Et puis, on sait ce que c'est que l'exercice du pouvoir. On ne fait jamais exactement ce qu'on aurait voulu faire. Il y a des compromis parfois. Bref, oui, nuancer, on le fera. Mais... pas sur l'essentiel. Sur l'essentiel, pardonnez-moi, je le redis ici, moi j'estime que le bilan de ce quinquennat est une réussite, un succès. Et donc tous ceux qui commenceront au sein de la primaire, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon ou d'autres, par dire, ou Emmanuel Macron,
est-ce qu'on
en dehors de
la primaire,
par dire
est-ce qu'on maintient
ce quinquennat était une
on
erreur.
On entend beaucoup dire du côté de François Hollande que finalement le président de la République pourrait ne pas participer à la primaire et se présenter directement à la présidentielle.
Non, alors, sur ce sujet, moi, vous savez, À l'origine, je n'étais pas forcément favorable à la primaire à gauche. Pour une raison simple, c'est qu'avec un président sortant, il me paraissait naturel de continuer avec ce président sortant. Maintenant, la primaire a été décidée, annoncée, en cours d'organisation. Non, on ne va pas y mettre fin.
Donc Hollande ne peut pas s'y soustraire.
Mais d'abord, il ne cherche pas à s'y soustraire. Enfin, encore une fois, ne croyez pas ce que vous lisez ici ou là. Je veux dire, adressez-vous aux principaux intéressés. Il ne cherche pas à s'y soustraire.
Montebourg et Hamon s'en inquiètent. Ils disent qu'on n'organise rien, il n'y a pas les bureaux, il n'y a pas les listes, on ne communique pas.
Pour deux raisons. La première, c'est qu'on l'a bien vu avec la primaire de la droite, il y a une véritable appétence populaire à venir s'exprimer et à désigner le candidat. La deuxième raison, c'est qu'à quoi sert une primaire ? Ça sert notamment à venir parler de projets. Donc ça sert à mettre en forme le projet pour la suite, dans chaque écurie, chaque équipe, et à revenir aussi sur ce qui a pu faire débat entre nous s'agissant du bilan de ce quinquennat.
Donc vous ne conseilleriez pas François Hollande, vous ne conseilleriez pas, pardon, je vais y arriver pour quelqu'un qui fait de la radio, à François Hollande de renoncer à la primaire ?
Non, pas du tout. Non.
Et de se présenter directement.
Non, la primaire a lieu. Il faut respecter évidemment les électeurs de cette primaire et faire en sorte qu'elle se tienne et qu'elle soit une réussite. Là encore.
Est-ce qu'il doit dire...
Je suis persuadée qu'elle sera une réussite.
Est-ce qu'il doit dire rapidement ce qu'il entend faire ? Est-ce qu'il faut maintenant presser le mouvement pour arrêter ? Est-ce que, pour répondre à votre aspiration, tout ça cesse ?
Mais d'abord, il a toujours dit qu'il s'exprimerait d'ici au 15 décembre. Cette date fatidique approche, donc il s'exprimera évidemment d'ici là. C'est une question de
quelques
jours,
j'imagine.
Vous en avez parlé avec lui ? Nous en parlons souvent, bien sûr.
Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit ?
Mais il souhaite qu'on respecte le calendrier qui est le sien.
On peut attendre le 15 décembre. On peut attendre le 15 décembre encore.
Mais vous savez,
le 14 de minuit.
Pardonnez-moi, mais on parle du président sortant tout de même. Ça n'est pas n'importe qui. On peut au moins respecter sa volonté et de se soumettre à une primaire, ce qui est tout de même courageux. Je connais d'autres responsables politiques qui auraient choisi la voie de la facilité. Ça n'a pas été son cas. Et se soumettant à cette primaire, de donner un calendrier qui, pour lui, correspond à son exigence de responsabilité au sommet de l'État, car annoncer sa candidature le plus tardivement possible, c'est une façon de conserver une certaine neutralité à la tête de l'État.
Et si Manuel Valls prend les devants et dit demain, après-demain, dans trois jours, je suis candidat, avant que François Hollande ne soit prononcé, qu'est-ce qui se passe ?
Mais je n'y crois pas. Moi, je veux bien faire de la politique fiction, mais on a déjà suffisamment de choses à commenter sur la réalité. Ne nous lançons pas là-dedans.
Justement, Malek Bouti, proche de Manuel Valls, qui dit « La ligne anti-Hollande est majoritaire au sein du gouvernement. » Il dit « Si on faisait un vote au Conseil des ministres, il y aurait une majorité de ministres pour être contre la candidature de Hollande. »
C'est faux. Je ne sais pas d'où il tire cela, Malek Bouti. À ma connaissance, il n'a pas de statistiques ou...
Vous avez le sentiment que c'est un gouvernement uni pour pousser François Hollande à être candidat ?
Je crois que le gouvernement est composé de ministres dont je crois être relativement représentative, c'est-à-dire de ministres qui sont loyaux à la fois au président de la République et au Premier ministre, et donc qui ont envie que les choses se passent bien entre les deux hommes, tout simplement.
Vous croyez que ça peut durer 5 mois ? C'est-à-dire que, imaginons que François Hollande soit candidat, Manuel Valls peut rester Premier ministre après tout ce qu'il a dit sur le président ?
Moi, je retiens de l'action et des propos de Manuel Valls depuis des mois et des mois une solidité et une loyauté, une fidélité
et pas depuis aujourd'hui.
Qui ne s'est jamais démentie.
Jusqu'à présent.
Y compris dans l'interview à laquelle vous faites référence, ce que je lis, c'est un appel au rassemblement, la nécessité de trouver une solution rapidement dans les jours qui viennent. Si ce doit être autour du président, ce sera autour du président. Sinon, il faut en effet qu'une discussion entre les deux hommes
vous
ait lieu.
Si ce n'est pas le président, si ce n'est pas François Hollande, vous trouvez que Manuel Valls, c'est l'alternative puisqu'il incarne la même politique ?
Oui, je vous disais en effet que la social-démocratie à laquelle moi je suis attachée me paraît bien portée
Donc
par
si
les deux
François
hommes.
Hollande n'y va pas, vous serez derrière Manuel Valls.
Arrêtez de poser la question comme cela, parce que c'est ainsi que vous nous enfermez en permanence dans un récit.
Vous nous dites on attend la décision de François Hollande. Vous nous dites si François Hollande y va, je suis derrière lui, et on vous dit s'il n'y va pas, vous êtes derrière Manuel Valls.
Mais moi, je vous réponds une chose très simple, comme ça vous pourrez interpréter à votre guise mes propos. Je considère que et François Hollande et Manuel Valls sont des hommes d'État qui ont la stature nécessaire. Donc, je vous le dis, je trouve que c'est François Hollande qui, aujourd'hui comme président sortant, a la légitimité naturelle pour se représenter, considérant qu'il a un bon bilan. Mais c'est à lui d'en décider. Et s'il venait à décider d'autre chose, eh bien nous verrons bien, mais nous savons qui sont les hommes d'État dans le paysage
politique. Encore une question sur la candidature à gauche. Vous avez dit que vous ne seriez pas candidate à la primaire, mais est-ce que ça vous a effleuré l'esprit à un moment donné ?
Vous souriez en tout cas.
Non, pardon, je voyais quelqu'un dans le public. Ah bah, j'ai encore le droit
de sourire. C'est dommage, j'espérais que le sourire m'était adressé, moi.
Non,
pas du tout.
Non, honnêtement, ça ne m'a jamais traversé l'esprit.
Malgré ce que dit François Hollande sur votre similitude avec Ségolène Royal.
Non, je crois sincèrement que le paysage politique est déjà tellement balkanisé que le sens des responsabilités, je crois l'avoir, nous appelle les uns et les autres à suivre l'intérêt collectif. Moi, il me semble que l'intérêt collectif aujourd'hui, c'est de valoriser ce qui a été fait durant 5 ans et de proposer un projet pour la suite.
Alors, un chiffre qui montre que ce n'est pas balkanisé partout. À droite, à midi, la participation à la primaire de droite était de 10 à 15% de plus qu'au premier tour, avec 1 270 000 votants. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, la véritable appétence des Français pour cet exercice de primaire, qui est un exercice, je crois, qui enrichit la démocratie. Voilà, donc c'est plutôt intéressant.
À propos de balkanisation, Sylvia Pinel, ministre, qui veut être candidate à l'élection présidentielle sans passer par la primaire, ça vous inspire quelque chose ?
Est-ce que ça
radical de gauche ?
Oui, et ancienne collègue du gouvernement, donc je connais bien. Ce que ça m'inspire pour avoir lu ces propos exacts, c'est que la raison principale pour laquelle le PRG se présente hors des primaires du Parti Socialiste, c'est qu'il ne veut pas se retrouver à devoir soutenir contre sa volonté un Arnaud Montebourg ou un Benoît Hamon qui potentiellement pourrait être désigné. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le PRG lui-même reconnaît en creux que le seul homme capable de porter le rassemblement de la gauche,
donc
c'est
bonne,
François Hollande.
C'est une bonne nouvelle pour François Hollande.
Le PRG, c'est la clé de voûte de la stratégie de candidature de François Hollande.
Non, n'exagérons rien. N'exagérons rien, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du faisceau d'indices.
Sincèrement,
on va dire,
j'ai du mal à vous suivre. Parce que si François Hollande peut être battu par Arnaud Montebourg lors de la primaire, on ne voit pas comment il peut être capable de rassembler la gauche.
En creux, ça veut dire ça
vous
aussi. Voyez. Ça veut dire qu'il y a un risque que Arnaud Montebourg gagne contre Hollande.
Ça veut dire que, en fait, le PRG prend acte du fait, comme moi, qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas suffisamment clarifiées pour ces primaires de la gauche et qu'il faut absolument les clarifier. Et qu'est-ce qui n'est pas clarifié, justement ? Notamment cette question de la candidature d'un François Hollande, Manuel Valls, dont je dis à nouveau qu'il faut que ce soit réglé très rapidement pour qu'ensuite on y voit clair sur cette
question. Dimanche dernier, on a vu que pas mal
d'électeurs
de gauche...
D'ailleurs, juste un mot sur le PRG. Je constate aussi que la décision est tout sauf irrévocable. Quand la question est posée, elle est éludée par Sylvia Pinel. J'en déduis que le jour où notre primaire sera bien clarifiée, le PRG pourrait aussi revenir.
Si François Hollande la gagne, parce que si François Hollande ne la gagne pas...
Non, mais avant. Je veux dire, quand je dis clarifier, c'est-à-dire qui sont les candidats en lice au sein de la primaire. Le jour où nous avons une meilleure information sur ce sujet, je pense que le PRG peut revenir participer à la primaire.
Dimanche dernier, il y a eu beaucoup d'électeurs de gauche qui sont allés voter pour peser sur le choix de la primaire de droite. Est-ce que vous souhaitez que ce soit encore le cas aujourd'hui ? Et puis, accessoirement, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait beaucoup d'électeurs de droite qui viennent participer à la primaire de gauche ?
Comme Arnaud Montebourg.
Non, mais moi, j'ai au moins cet avantage d'être extrêmement cohérente dans mes propos, puisque m'avez bien suivi, il y a plusieurs semaines de cela, j'alertais sur cette velléité d'électeurs de gauche d'aller voter à la primaire de droite, en disant que je ne trouvais pas cela naturel et sain du tout. Pour moi, c'est un petit peu comme si vous vous invitiez dans l'assemblée de copropriétaires de votre voisin parce que vous avez peur que les travaux puissent vous gâcher la vue. Enfin, c'est pas possible. Je veux dire, chacun chez soi, d'une certaine façon. Les électeurs de droite votent aux primaires de droite. Les électeurs de gauche votent aux primaires de la gauche. Et donc, la cohérence me fait dire que je ne souhaite évidemment pas particulièrement, même si on n'interdit rien à personne, que des électeurs de droite s'invitent dans la primaire.
Et quand Arnaud Montebourg
gauche
dit que les électeurs de droite viennent pour m'aider à battre François Hollande, ça vous choque, ça, vous trouvez ça bien ?
Je veux dire, l'attitude d'Arnaud Montebourg me choque depuis très longtemps déjà. Ça n'est pas comme si c'était nouveau tout ça pour moi. Le fait que quelqu'un qui a été ministre de François Hollande, ministre de l'économie qui plus est, puisse aujourd'hui tout balancer par-dessus bord et puis se présenter contre le président de la République sortant, me semble infiniment choquant en soi. Donc, qu'il y rajoute cette avanie-là...
Enfin, des ça ne discrédite pas la primaire.
La primaire, je vous le dis, de toute façon, d'accord, elle a été annoncée, organisée, malgré ça, elle aura lieu.
Vous êtes très dur avec Arnaud Montebourg. S'il était désigné par les électeurs de gauche, est-ce que ça serait votre candidat?
Et de droite,
est-ce que ce serait votre candidat?
Nous verrons, mais comment je ne crois pas qu'il sera désigné.
Non, mais le jeu de la primaire, c'est de soutenir le candidat désigné, quel qu'il soit, vous êtes d'accord?
Oui, nous verrons. Mais je ne crois pas qu'il sera désigné.
Mais s'il l'était, ça serait votre candidat s'il l'était?
Nous verrons.
Ah ben vous ne répondez pas à cette question.
Ça veut dire que s'il gagnait la primaire, vous pourriez ne pas le soutenir finalement.
Non, je n'ai pas dit cela, j'ai dit nous verrons. Je pense que ça ne sert à rien, là encore, comme tout à l'heure, de faire de la politique fiction qui donne à penser que vraiment Arnaud Montebourg aurait des chances de remporter cette primaire, ce qui ne correspond strictement à rien sur le terrain.
On le disait de François Fillon il y a deux mois.
Ce qui ne correspond à rien sur le terrain. Pardon, François Fillon, ceux qui se sont trompés, ce n'est pas le terrain, c'est les sondages. Donc moi, c'est
les électeurs ont aussi changé d'avis. Les électeurs ont aussi changé d'avis. Ils ont affiné leur
aujourd'hui,
jugement.
Aujourd'hui, je peux vous dire que tout cela n'a pas de raison d'être.
Elle est mal pensée, la primaire de la gauche. Si vous dites déjà que vous ne savez pas si vous soutiendrez Arnaud Montebourg, candidat investi par les électeurs.
Non, c'est fini.
Non, mais je crois avoir
d'accord
répondu.
Alors, est-ce que c'est de la politique fiction de considérer, comme apparemment pas mal de responsables politiques à gauche l'ont considéré cette semaine, que François Fillon est d'ores et déjà gagnant de la primaire de droite?
Je ne sais pas, puisque vous-même vous dites qu'il y a une participation plus importante, donc peut-être que ça peut rebattre les cartes. Je crois vraiment que ce que nous a appris le premier tour des primaires de la droite, c'est que les électeurs ne se laissent pas dicter leur vote, vraiment. Ce qui a d'ailleurs des raisons aussi de rassurer ceux qui, comme moi, désespèrent parfois de voir un récit médiatique très uniforme. Vous allez me dire, les médias, oui, les médias impactent l'opinion des Français, qu'on le veuille ou pas. Donc un récit médiatique très uniforme, par exemple au sujet de François Hollande, je le disais tout à l'heure, qui passe par perte et profit toutes les avancées de ce quinquennat comme si elles n'avaient pas existé. Eh bien, oui, les électeurs ne se laissent pas dicter leur
vote. Donc le score de François Fillon, finalement, au premier tour, c'est une bonne nouvelle pour François Hollande?
Je crois que c'est une nouvelle intéressante pour tous ceux qui en ont assez, en effet, de l'omniprésence des sondages dans la vie publique. Je veux dire, on passe quand même notre temps à les commenter aujourd'hui plutôt que de débattre. Mais d'ailleurs, j'espère que nous allons arriver au fond.
On a eu le sentiment quand même à travers plein de réactions de responsables de gauche que François Fillon, c'était vraiment le candidat idéal pour permettre à la gauche de ressurgir.
Mais, là-dessus, il reste donc en lice à droite François Fillon et Alain Juppé. Donc, en fait, votre question, c'est est-ce que finalement vous êtes contente que vous préférez
que
François
Fillon
par rapport
que Juppé,
à Alain
voilà
Juppé? Mais moi, je vais vous répondre, je n'adhère au programme ni de l'un ni de l'autre. Je veux dire, la seule différence entre les deux programmes, j'ai bien écouté le débat de jeudi soir, c'est une différence de délai d'exécution. L'un va faire en 3 mois par ordonnance ce que l'autre mettra 3 ans à faire. Mais derrière le programme, c'est quoi? C'est notamment l'exécution des services publics. Donc moi, ça, je ne peux pas y adhérer. Pardonnez-moi, prenons un sujet qui me tient très à cœur, qui est l'éducation. Quand vous avez un François Fillon qui vous dit « je vais supprimer 500 000 postes dans la fonction publique », compte tenu du poids de l'éducation nationale dans la fonction publique d'État, on sait que ça veut dire 170 000 professeurs en moins pour les élèves. Est-ce que vous savez ce que ça signifie?
Non, mais ça on n'en sait rien. Il n'a pas du tout dit où il allait les supprimer, les postes de fonctionnaires.
Ah, ben je suis contente que vous l'ayez noté. Il ne l'a pas dit. Donc il avance masqué. Pourquoi vous ne lui posez pas la question de façon plus franche?
Tout le monde lui a posé 10 fois la question. Il a dit que ça concernait au moins autant et davantage les collectifs territoriaux que la fonction publique d'État. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est qu'en proportion, ça sera moins de professeurs.
Très bien.
C'est ce qu'on peut le déduire. Non, ça fera, dans les économies de postes, ça sera moins les professeurs qui seront touchés que la fonction publique territoriale. C'est ce qu'on a compris.
Mais non, voyons, tous les candidats de droite, encore une fois que ce soit M. Juppé ou M. Fillon, vous disent, mes économies de fonctionnaires, je les fais moitié dans la fonction publique d'État, moitié dans la fonction publique des collectivités locales. Donc moitié-moitié, ça fait sur 500 000, 250 000 dans la fonction publique d'État, 250 000 dans la fonction publique d'État, compte tenu de ce que représente encore une fois l'éducation, surtout si on enlève la sécurité, la justice et le ministère régalien, eh bien je vous le dis, mais vraiment, écoutez-moi, car c'est la vérité, je l'ai fait chiffrer tout cela, cela fait 170 000 postes en moins. Je le dis à tous vos téléspectateurs et auditeurs, 170 000 postes en moins, ça veut dire que pendant 5 ans, on ne remplace plus aucun départ à la retraite de professeurs. À chaque fois qu'un professeur part à la retraite, sa classe est reversée dans les autres classes de l'établissement, ce qui fait exploser les effectifs de classe.
Plus longtemps.
Plus des licenciements. On licencie 70 000 enseignants de plus. Donc voilà ce que nous prépare François Fillon, qui refuse à chaque fois de nous répondre
plus,
précisément.
François Fillon, les fonctionnaires notamment de l'éducation nationale.
Mais que signifie travailler plus?
C'est ce qu'il dit. Hein.
Mais que signifie travailler plus? Vous avez tous des enseignants autour de vous. Vous avez un minima des enfants qui vont à l'école. Vous voyez fonctionner ce service public de l'éducation. Croyez-vous vraiment que les enseignants travaillent 6 mois par an, comme le disait M. Sarkozy? Mais quelle outrance, quelle insulte, quelle injure faite à nos enseignants.
Nos enseignants, en moyenne,
en termes de temps de travail, si vous comptabilisez, et évidemment le temps passé devant la classe, et le temps de préparation des copies, de correction, de rencontre des parents, travaillent 40 heures par semaine.
Vous voyez que c'est un bon candidat, François Fillon, pour vous?
Mais non, en moyenne, il travaille déjà 40 heures par semaine.
Pardon, mais il y a des études qui montrent, moi je ne peux pas vérifier tout ça parce que je lis, qu'il y a beaucoup moins de professeurs en Allemagne et en Grande-Bretagne dans le secondaire, c'est-à-dire au collège, l'équivalent du collège et du lycée.
Beaucoup moins d'élèves en Allemagne, évidemment.
Et que pour autant, les résultats des écoles en Grande-Bretagne comme en Allemagne ne sont pas inférieurs à ceux de la France, voire meilleurs.
Il y a moins d'élèves aussi. Simplement que vous en ayez conscience, la France a la chance de bénéficier d'une démographie extrêmement dynamique.
Mais on parle en proportion, il y a moins d'enseignants pour 100 élèves qu'en France.
Non, mais enfin, même proportionnellement, ça ne correspond pas. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, le système éducatif français est souvent critiqué, on y voit souvent une espèce de masse avec trop d'administration par rapport au nombre d'enseignants et de professeurs et d'élèves. Je vais juste résumer les choses. Nous avons donc à peu près 12 millions d'élèves. Pour ces 12 millions d'élèves, il y a à peu près 1 million de personnels. Sur ces 1 million de personnels, vous avez 80% d'enseignants et 20% simplement de personnels qui sont dédiés à des tâches administratives, de surveillance, etc. etc. Donc c'est absolument, j'allais dire, sain comme rapport. Et aujourd'hui, nous avons une démographie dynamique qui doit nous pousser non pas à couper dans l'éducation nationale, mais au contraire à continuer à recruter. L'éducation doit être un métier d'avenir. C'est par définition l'investissement numéro un pour un pays qui veut se redresser, y compris économiquement. C'est avec une population plus qualifiée qu'on va se redresser économiquement.
Je suis obligé d'arrêter parce qu'on a un problème de chronomètre, mais on va revenir évidemment sur l'école en deuxième partie, et notamment sur le rôle de l'école dans l'entretien de la culture française. C'est un des débats de la présidentielle. À tout à l'heure.